déguste vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour ! Nous voici confortablement installés au 5 boulevard Garrison à Montauban dans notre studio avec Pascal Olivier qui vient de déboucher un vin blanc du domaine de la Chanade. C'est un vin, donc un domaine qui est situé dans le
Gaillacois.
Dans le Gaillacois. Bonjour Georges Bonfils.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien. La reprise, il fait beau.
Ouais. Bon, on s'est vu dimanche dernier à la fête des vendanges.
Ça a été une grande journée.
Je conseille à tous les auditeurs d'aller sur le site cfmradio.fr. On a consacré une page à cette journée. Vous y verrez Georges interviewer Monsieur Pache, bouilleur de cru de son état. Et après, il était dans un sacré état. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Comment ça va?
Bah, très bien. Moi aussi, j'ai eu un petit peu de mal à me remettre parce que moi, j'avais commencé la journée avec vous. Et après, je suis allé chez d'autres amis, donc des Jardins de Cécile.
Ouais.
Il y avait aussi beaucoup de vin que j'ai bu avec modération, mais souvent.
Mais comme il faisait très chaud, c'était compliqué quand même tout ça. Alors aujourd'hui, pas d'invité dans nos studios, mais on va quand même évidemment faire... avoir des invités au téléphone. On va s'intéresser pour un gros dossier tout à l'heure aux alentours de 18h10, 18h15 de ce qui fait la grosse actualité de notre région. Vous savez, c'est ce barrage.
C'est bon ça.
Près de ce barrage sur le Técou.
L'Île-sur-Tarn, entre Gaillac et l'Île-sur-Tarn, le barrage de la forêt de Sivens.
Voilà,
c'est un castagne.
Un projet
sec.
Qui a plus de 30 ans et qui, pour le moment, voit s'opposer à la
les
fois
uns et les autres.
Les uns qui disent que c'est du gaspillage d'argent public au profit de quelques intérêts privés, et les autres qui disent que c'est important pour développer l'irrigation des cultures d'été, des semences, des fruits et légumes, sécuriser les stocks fourragers, des exploitations d'élevage, tout en satisfaisant les besoins du milieu naturel. Nous en parlerons donc tout à l'heure avec un certain Benoît Biteau. C'est lui qui sera avec nous et vous verrez
au téléphone.
Que ce monsieur est un spécialiste des zones humides, très impliqué sur tout ça. Il est ingénieur des technologies agricoles et généticien.
Il a un CV bras long comme le bras.
Il a un CV long comme le bras.
C'est un cumulard. C'est vraiment un cumulard.
Paysan bio et c'est un cumulard, oui, comme tu dis.
Oh là 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 là.
Il sera avec nous tout à l'heure à 18h10. On fera la connaissance avec Emmerich, c'est ça je crois, il s'appelle Emmerich. Il est tout jeune restaurateur.
Non, Pierrick Houbart.
Pierrick.
H-O-U-B-A-R-T.
Voilà, il s'est installé là où avant il y avait l'Étoile dans une rue de Montauban.
Ça s'appelle maintenant la Belle Province, Grand Rue Ville Nouvelle à Montauban.
Voilà.
La Belle Province.
On fera connaissance avec lui.
À la place de la pizzeria.
C'est
voilà,
ça.
Voilà, la place de l'Étoile, ça a repris la formule, plat du jour.
C'est plutôt pas mal, donc on a dit on va lui faire un petit coup de pouce pour inciter les gens à aller déjeuner chez lui. Et puis, attention, mesdames et messieurs, Michel Fugain sera avec nous dans la dernière partie de cette émission au téléphone.
Terrible.
Oui, absolument. Nous l'appellerons en Corse.
C'est-à-dire on va lui parler en langue corse ou il est
non il est en Corse, ça va être rigolo sinon.
Jean-Pierre Corse.
Et voilà, et on lui demandera qu'est-ce qu'il y a dans son frigo en fait.
Oui, oh voilà. Qu'est-ce qu'il peut avoir en Corse? Du broccio et du figatello.
Qu'est-ce qu'on déguste?
Ça trinque comme ça.
Ça commence comme ça.
Un beau son. Et ce verre-là est excellent.
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 La cuvée Gallien du domaine de la Chanade.
Il n'est pas bouchonné celui-là.
Non, il nous en reste qu'une d'ailleurs. Il va falloir faire un appel au peuple, c'est-à-dire aux producteurs. Genre.
I'm not afraid to
C'est une programmation musicale spéciale 400 coups, Rémi.
J'allais te dire, il faut.
C'est un peu d'eau de ça quand même. Il faut...
Il faut aller sur les
c'est la musique. Tampons. C'est la musique des plages, ça.
Ah ouais.
Ah oui, si, le DJ suédois.
C'est mauvais quand même.
Alors, puisqu'on est tous rentrés de vacances, on a tous croisé sur notre route un bon petit resto par-ci, un bon petit plat par-là. Donc, je vous propose de faire un petit tour de table sur vos découvertes de cet été ou les moments sympas. On commence par toi, Gaël.
Ouais, bah, moi, j'étais en vacances près de Béziers, donc un petit village qui s'appelle Cesnon-sur-Orbe, pas très loin. Une petite place magnifique, bien ombragée, avec un petit restaurant qui s'appelle l'Europe. Alors, c'est brasserie, c'est classique, hein. C'est pas du 3 étoiles. Et ils font des animations musicales et c'était vraiment très très sympa. Ils ont une carte où ils font brasserie et pizza. Il y a des plats typiques régionaux, des bons petits vins. Voilà, c'était très sympa.
C'était où ?
L'Europe, à Cesnon-sur-Orbe.
L'Europe, à Cesnon-sur-Orbe. On avait l'Europe où, avant ici. Comment ça s'appelle maintenant, l'Europe ?
Ice Garden.
L'Ice Garden.
L'Ice Garden Café.
Oui, c'est cela. Georges ?
Alors, moi, bon, j'ai l'occasion d'aller à Paris pour garder mes petits-enfants. Et je fais une étape à Châteauroux, ça s'appelle Adéol, c'est exactement. Et je conseille un restaurant, ça s'appelle Escale. C'est ouvert 365 jours par an. Je crois que c'est fermé uniquement le jour de Noël et le jour du 1er de l'an. 24 heures sur 24, on peut manger à toute heure. Et ils servent extrêmement rapidement et surtout des plats du terroir. Et après des classiques de la cuisine française, comme la tête de veau ravigote, les pieds de cochon, l'andouillette.
Et tout est frais, tout est bon.
Et même ils ont des plateaux de fruits de mer, mais là on n'a pas le temps d'en prendre un parce qu'ils ont des... On voit sur les tables voisines les plateaux de fruits de mer qui sont géants et qui sont très appétissants.
Qui c'est qui m'a parlé d'un restaurant où on pouvait manger des fruits de mer à volonté sur un buffet là
Qui c'est qui nous a parlé de ça? Oui, effectivement.
Et il faudra retrouver
le grand buffet de Narbonne, c'est pas possible.
Au grand buffet de Narbonne peut-être. Oui, le grand buffet de Narbonne, c'est une très très bonne adresse aussi, mais je ne sais plus. Oui, peut-être ça. Oui, qui c'est qui nous a parlé de ça?
Peut-être, je ne sais plus.
Fruits de mer à volonté, ça doit être intéressant.
Oui, c'est ça, tu payes 35 euros le prix d'un ou 25 euros, je sais plus, et puis après tu te lèves et c'est à volonté.
Moi qui donne les plateaux de fruits de mer, j'aime bien les palourdes. Et tu en as que deux, en principe.
C'est ça.
Et tu as six moules, mais deux palourdes.
Tu pourrais te resservir.
Je jetterai sur les palourdes.
Il voulait réagir, Aurélien.
Non, c'était pas réagir, c'était mon petite expérience. En Italie du Sud, du coup, dans les Pouilles, où j'ai pu passer quelques jours cet été, un truc très bien, c'est que les boucheries ont un four à bois à l'intérieur de chaque boucherie. Et du coup, ils proposent une table. Et j'ai trouvé ça magnifique.
Ah,
donc,
c'est bien ça.
T'as pas de prix sur la carte, ça coûte le prix de la découpe, ça coûte le prix de la boucherie. T'es bien.
On te fait sauter le truc, on te fait griller.
Directement.
Quel genre de spécialité
T'as tout ce que tu veux, du porc, du bœuf, voilà.
Ah, c'est une bonne idée, ça.
Et à Barcelone, autour de la Boqueria, c'est-à-dire le marché du
marché central,
le marché central là, sur les Ramblas, autour, il y a des petites guinguettes ou des petits bistrots qui ont du feu, qui ont de la braise, et on peut faire cuire son poisson ou ses...
Tu achètes au marché et tu fais cuire, comme on faisait avant ici.
Et que l'on peut faire cuire à côté, comme moyennant la propine.
Ah ben voilà, moi,
ça y est, il commence à renverser les verres. Claudine, viens le chercher.
Tu finiras au verre d'un.
Et
moi, un petit tour chez Michel Guérard à Eugénie-les-Bains. Alors, pas aux 3 étoiles, parce que le prix est quand même un peu excessif. Je crois que c'est dans les 200, 250 ou 300 euros par personne. Mais juste à côté, il y a un autre restaurant, un autre établissement de Michel Guérard, donc le pape de la nouvelle cuisine, enfin de la cuisine minceur. Ça s'appelle la Ferme aux Grives, et où on mange pour 49 euros, vin compris. On mange une cuisine au feu de bois, au four et au feu de bois, des choses vraiment très très bonnes, c'est vraiment très bien fait, c'est copieux, 49 euros c'est pas excessif pour Guérard, et vraiment c'est une belle adresse, et il fait notamment un hambourgeois qui est pas un tartare, c'est un hamburger avec du bœuf de chalosse et du magret, c'est coupé au couteau, un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail, c'est cuit à la braise, c'est servi dans un pain rond, c'est somptueux. J'en referai ça pour cet hiver parce que c'est vraiment très très bon. La Ferme aux Grives, si vous passez à Eugénie-les-Bains, ça fait un petit peu plus de deux heures de route d'ici, mais si vous allez dans le coin, arrêtez-vous, c'est vraiment très très bien.
Exactement le même temps de route, mais à l'opposé, un petit resto à Mimizan. Mimizan, il y a Captain Moule.
Mimizan plage ou
Mimizan plage? À Mimizan plage, tu as des trucs genre Captain Moule et la foire à la bouffe là, hein, qui a foire aux pizzas, foire à ceci,
foire à touristes.
Foire à touristes.
C'est le chouchou.
Et puis tu as Nost. Nost, c'est dans une petite rue sur le front de mer, tu vois. En fait, tu y accèdes, on le voit pas de suite parce que il faut monter des escaliers pour y accéder à Nost. Et quand tu accèdes en fait à ce resto, il est séparé par un mur en deux parties. Et d'un côté, tu as une sorte de bar de plage, tu vois, avec des paillotes, etc. Et de l'autre, le resto, et avec une vue somptueuse, tu es haut de la dune.
Sur la dune, t'as l'océan en face.
Et comme c'est un resto qui est ouvert à l'année, il est pas plus cher qu'ailleurs, il est même plutôt moins cher que les restos à touristes. On y mange très 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 bien, on y est super bien accueilli. C'est des capitaines, c'est des crevettes flambées, des gambas, enfin c'est ce genre de truc, tu vois,
c'est frais,
des
c'est plats. Pas congelé, rien
c'est frais,
tout.
Tout est super travaillé. Et le mardi côté bistrot, c'est paella. Donc là aussi c'est très sympa, ah, oui. tu peux te mettre face à la mer avec un peu de sangria, de la paella. C'est vachement bien.
Ça coûte combien?
Et alors c'est pas plus cher que n'importe où, 25 € le soir quoi, tu vois, 25-30 € quoi.
Et on y boit quoi? Du tursan blanc, des choses comme ça.
Tu as du tursan, tu as du gaillac, tu as et je conseille d'ailleurs de prendre directement le moins cher, le pichet de blanc. Qui est un vin du coin, qui est
du Tursan, c'est du Tursan, de la cave coopérative de Jeanne.
Voilà, très très bien, très très bien. Du coup, pas cher et chouette, quoi, face à la mer. Maintenant, on est revenu à la maison.
Ben oui.
Alors, comme on est à Montauban, on va tous se chercher un petit resto le midi. Je vous en propose un, parce que le gars, il mérite, il s'appelle Pierrick Houbard. C'est son premier resto, ça s'appelle La Belle Province, anciennement donc L'Étoile.
Rue Nouvelle.
Et donc, il est ouvert du lundi au vendredi, de midi à 15h. On me dirait, ça fait un peu feignant quand même, parce qu'il veut pas ouvrir le soir. Mmh. Mais bon, ça...
Il y en a d'autres qui nous avaient déjà fait ça avec la cantine de Proust. Ils n'ouvraient pas le soir.
Et
ça fonctionne très bien.
Absolument. Au 17 Grand Rue Ville Nouvelle, on pousse la porte.
Je m'appelle Pierrick Houbard. Je viens d'arriver sur Montauban où j'ai ouvert la Belle Province. La Belle Province, c'est un restaurant avec un buffet et un plat du jour. Donc buffet, entrée et dessert. Toute la cuisine que je fais, c'est cuisine maison. Je fais mon pain, je fais mes pâtes, les tagliatelles.
C'est quoi ton parcours?
Ouais, moi, en fait, j'ai fait des études en anthropologie, ce qui a rien à voir avec la cuisine. Donc, j'ai une maîtrise en anthropologie. Puis ensuite, je suis parti faire un stage d'écriture de scénario de dessin animé. Ensuite, je suis parti vivre à Paris où j'ai travaillé dans le thé. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie d'ouvrir un restaurant. Bah, je travaillais un petit peu à droite à gauche. J'ai dû faire une trentaine de maisons en 6 ans. C'est la première fois que je suis derrière les cuisines. Alors pour m'aider, j'ai pas mal de potes qui ont des diplômes en cuisine, dont un qui a vraiment 20 ans d'expérience, qui m'a un petit peu briefé dernièrement là. Mais j'ai aussi beaucoup un amour de la cuisine. Donc je passe mes matinées à faire mes prépas. Puis ensuite, je prends la blouse de serveur et je deviens serveur à midi.
Les types de plats qu'on va retrouver ici à la Belle Province?
Bah, plutôt du traditionnel français. Des plats en sauce en hiver, des ratatouilles, des plats grillés, des saucisses grillées, ce genre de choses en été. Essentiellement beaucoup de plats en sauce, puisque ça me permet d'être en place plus facilement. Voilà, tout ce qui est grillade par exemple, j'ai du mal à passer 2 heures en cuisine pendant que je passe 2 heures en salle.
Et donc le concept aussi du buffet, c'est que t'as pas besoin de t'occuper des entrées, ça c'est le client qui s'en occupe tout seul, quoi. Et les desserts aussi. Quoi.
Voilà, pour les entrées, les desserts, l'intérêt c'est toujours pareil, de rester sur une mise en place le matin, et après de me simplifier au maximum le service. Donc je me retrouve à juste avoir à dresser les assiettes chaudes. Les gens peuvent se servir directement au buffet, donc par exemple, ce qui permet de ne pas attendre le midi quand on est pressé.
Quels sont les plats du jour que tu vas faire la semaine prochaine?
Ben, la semaine prochaine, il y aura certainement des lasagnes maison, donc avec tagliatelle faite maison. J'envisage un sauté de mouton. Mais par exemple, aujourd'hui, il y avait un bœuf bourguignon. La semaine dernière, une blanquette de veau.
Est-ce qu'on a le choix entre 2 plats quand on vient?
Oui, toujours. Ouais. Parce qu'en fait, donc il y a toujours le plat du jour. Et en alternative, les tagliatelles. Avec au choix 2 à 3 sauces. Par exemple, aujourd'hui, j'ai sauce pesto et sauce carbonara. pareil, tout maison, hein, je fais tout, je prépare tout.
Voilà, Pierrick Houbard tient à lui tout seul la belle province. C'est au 17 Grand Rue Ville Nouvelle à Montauban. Buffet, entrée, dessert, plat du jour, cuisine maison, produits frais. Les tarifs, c'est
8,50 le plat du jour.
8,50 le plat du jour, 9,50 le buffet. C'est-à-dire que le buffet, tu as, par exemple, pour les filles, c'est intéressant, ou pour ceux qui tiennent à leur ligne, parce que tu peux faire juste l'entrée et le dessert, et ça, ça te coûte que 9,50.
Mmh, c'est pas mal.
Tu vois, et ensuite, je crois que c'est 13 euros l'ensemble.
Le complet.
Le complet.
C'est copieux, c'est bien. Moi, j'ai mangé la blanquette qui était très bonne. On a mangé cuisse de canard, ratatouille, choses comme ça. À noter quelque chose aussi qui est très très bien. Il fait son pain.
Ouais.
Et il fait un pain particulièrement savoureux. Vraiment un pain très très bon.
Sauf quand il l'oublie, il l'avait un peu fait brûler avant-hier. Mais voilà.
J'ai pas eu ça encore, mais il est bon.
Je l'ai eu, mais voilà.
C'est
Par contre, voilà, Pierry qui fait ça tout seul, c'est sa petite entreprise, c'est son premier resto à lui. Je pense qu'il faut l'encourager en allant au moins s'essayer à ça.
Si on a un peu de chou, il peut te causer anthropologie et là structurel
ou dessin animé.
Voilà.
Et voilà. Hein, tu vois, et puis
tu vas avec le roi Gourand sous le bras ou Lévi-Strauss et là tout de suite tu as un pot, je pense qu'il te file un coup à boire.
Et il l'a dit aussi, il aime l'écriture, je pense que avec un pote à lui, il va y avoir des ateliers d'écriture dans son resto l'après-midi, ça c'est en prévision dans les prochaines semaines, les prochains mois. Au passage, si vous avez des idées de resto plutôt sympas, n'hésitez pas à dénoncer les copains. Hein. Vous passez sur notre page cfmradio.fr ou notre page Facebook ou sur le site qu'est-ce-qu'on-déguste.com ou vous nous envoyez un mail ou vous nous le dites quand vous nous croisez ce soir chez Lulu la Nantaise
ou ailleurs, ou chez Pierre Cantegrel.
Ou chez Pierre Cantegrel, voilà. Quand vous nous croisez, vous nous dites, tiens, il y a ce resto-là, nous on y va une fois, deux fois, trois fois, puis si ça nous plaît, pourquoi pas un petit reportage, pourquoi pas une petite invite dans l'émission Qu'est-ce qu'on déguste ?
Mais bien sûr.
Hein, ou pourquoi pas Qu'est-ce qu'on déguste en direct aussi.
Chez eux, directement.
Un peu de jazz.
Un peu de jazz. Aujourd'hui, j'ai choisi la diva du jazz. C'est Nina Simone, qui est décédée en 2003. Bon, à l'origine, elle a commencé à jouer du piano à l'âge de 3 ans. Et à 12 ans, elle a donné son premier récital, mais un récital de classique, parce que c'était avant tout une musicienne classique. Et elle voulait devenir la première concertiste noire, mais elle n'a pas pu atteindre son but parce que la ségrégation dans
Afrique
les années...
Afrique du Sud, elle est africaine du Sud.
La ségrégation dans les années 50 ne lui a pas permis d'étudier le piano classique et de l'étudier dans les grandes écoles et surtout de pas pouvoir faire de concerts. Alors ce qu'elle faisait le soir, elle allait jouer dans des clubs de jazz pour avoir de l'argent pour pouvoir se payer des cours privés de piano. Et là, on l'écoute dans un morceau qui a fait sa réputation, c'est My Baby Don't Care, qui a été enregistré en 58, mais qui a resservi de publicité en 1987 pour Dior. Et ça l'a remis sur scène parce qu'elle a eu quelques petits passages.
Mais sinon, elle est pas plutôt capverdienne?
Je ne sais pas, Nina Simone.
Il me semble, vu qu'elle chantait un peu en portugais, ça y aurait plus de sens.
Nina Simone en portugais?
Non,
jamais de la vie.
Non.
Tu confonds avec celle qui chantait Sodad. Mais non, Nina Simone.
Bon, on va chercher, moi je pense qu'elle est d'Afrique du Sud, mais elle est peut-être américaine. Non. On va chercher ça, on vous dit ça.
Le jazz, c'est bien d'en parler, mais le mieux, c'est de l'écouter. My Baby Don't Care, Nina Simone.
Just Care. Don't please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares. Me.
knows he cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby.
Nina Simone, My Baby Just Cares For Me.
Pas, donc j'ai mélangé bien sûr les effets du
non,
vent
si,
déjà
pas.
Nina Simone et Cesaria Evora, donc voilà, toutes mes excuses à nos auditeurs et notamment à Kader,
Kader Youb qui vient de m'envoyer un petit SMS en me disant elle est américaine effectivement, elle n'est pas
effectivement,
du tout
d'Afrique
du Sud.
Elle est née le 21 février 1933 en Caroline du Nord.
Voilà. Oui, donc ségrégation à fond.
Ce que j'avais omis.
Voilà, voilà, c'est qu'est-ce qu'on déguste, dites donc. Alors, monsieur pianote sur son smartphone maintenant, en pleine émission, ne
bah voudrait... Oui, je réponds à Kader Youb, je dis merci.
Oui, ben, bah, il entend à la radio.
Mais merci, Kader.
Voilà, ça va plus vite que de lui envoyer un SMS.
Pour moi, un coup ce soir, Kader.
Qu'est-ce que tu as sur Isabelle Saporta?
Ah, Isabelle Saporta, eh bien oui, Isabelle Saporta, vous vous souvenez, on l'avait eu au téléphone quand elle avait, quand elle a sorti son bouquin, Vino Business. Et alors, après le bouquin, elle a fait un film qui passe donc sur France 3 lundi à 20h45. Ça s'appelle Vino Business. Et là, ben, elle remet un petit peu les compteurs à zéro, les pendules à l'heure. Elle a été l'objet, mais vraiment de critiques, mais vraiment nulles, des saloperies. On a écrit des choses sur elle, on a dit des choses sur elle, des choses dégueulasses.
Faut être blindé, hein.
Un livre bouchonné, écrit par Nunuche la salope. Elle a été surnommée Nunuche la salope. Voilà, ouais. Voilà le niveau des attaques subies par Isabelle Saporta. Après la sortie de son enquête, donc Vino Business, qu'on avait eu ici au téléphone. D'ailleurs, qui c'est qui a gardé le bouquin?
Et c'est moi qui n'ai pas d'accord.
C'est
Georges qui fait
tourner le bouquin.
Il faut que je le dise.
Donc après avoir dénoncé le scandale des élevages de porcs et des pesticides dans le sulfureux livre noir de l'agriculture, elle s'en prenait donc au monde chic et fermé des grands crus de Saint-Émilion, notamment du au châtelain du vin parfumé au chêne à 500 € la bouteille qui s'appelle donc Hubert de Boire.
Oui, il faut préciser quand même qu'elle s'en prenait avec raison. Elle avait fait une enquête qui était quand même super documentée.
Oui,
elle
a, oui. Donc Hubert de Boire, donc propriétaire de Château Angélus, a apporté une plainte en diffamation contre elle, et donc le procès est en train d'arriver. Donc il s'est payé quand même les services de Stéphane Fuchs de Havas Worldwide, qui est l'agence qui a assuré la communication de crise de DSK et de Jérôme Cahuzac. Donc il a quand même un petit peu de braise, parce que
Stéphane Fuchs, il
travaille pas à 30 € de l'heure, quoi. Et donc les avocats ont menacé France 3 pour empêcher la diffusion du documentaire, mais le documentaire va passer, donc il faut quand même le regarder. Je pense que ça va pas être mal.
C'est quand?
Bon, c'est donc lundi sur France 3 à 20h45. Ça s'appelle Vino Business d'Isabelle Saporta.
En plus, c'est à une heure de grande écoute, donc il n'y a pas de raison.
Oui.
On marque une petite pause dans Qu'est-ce qu'on déguste, et puis juste après, on va parler d'un autre conflit.
Du barrage de Sivin, son corps.
Ouais, du barrage de Sivin.
Merde, qui arrive là, en volant.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste, la suite? Et hop, un béaba du domaine des côtes de Brulois. En fait, on est dans le côte de Gascogne là, on n'est pas dans le Brulois.
On n'est pas en Brulois, fait. C'est un Sauvignon et Gros Mancin.
C'est ça.
C'est bon.
Oui, il me semble qu'on en a bu quelques
bon,
fois,
oui,
et
oui,
c'est
oui,
pas mal.
Médaille d'or quand même au concours mondial des Sauvignons 2014.
Nous allons nous intéresser dans la prochaine demi-heure au barrage de Sivin. C'est un projet qui date depuis plus de 30 ans et qui fait couler beaucoup d'encre, jeter beaucoup de cocktails Molotov, mettre des gens en prison, s'enterrer d'autres et certains
des tirs de flashball aussi.
Des cabanes dans les arbres. On va le faire en compagnie de Benoît Biteau, spécialiste spécialiste des zones humides, ingénieur des techniques agricoles, généticien, conservateur du patrimoine et paysan bio, lauréat 2009 du Trophée national de l'agriculture durable. Il nous donnera son point de vue par téléphone dans quelques instants. Ensuite, on aura une recette de cuisine, on écoutera du jazz, on fera un petit tour du côté de la BD.
Oui, on parlera de l'élève du Cobu pour la rentrée.
Voilà, et puis comme on a une actualité avec une vedette nationale, que dis-je nationale, internationale, Michel Fugain sera le 27 septembre prochain à Montauban, bah pour l'occasion, on va lui passer un coup de fil dans Qu'est-ce qu'on déguste. Il sera aussi notre invité dans PCV la semaine prochaine autour de son dernier projet.
Et quand on aura Qu'est-ce qu'on déguste ?
Eh bien, on va l'avoir à Qu'est-ce qu'on déguste parce que c'est rigolo de demander... comment il mange, comment il boit sur son île là-bas parce qu'il habite en Corse. Et tu sais qu'il a 71 balais le type.
Il est pas corse quand même.
Il est plus fin que toi.
Et surtout il a l'air en meilleure santé.
Dans la tête ou au niveau du ventre.
Et sa femme est roumaine.
Mais alors. Il y en a plein au bord des routes, des roumains.
Ils s'en foutent, ces roumains.
Oh, bravo.
Ah oui, sur la nationale 113, on les a vus, Patrick était tout étonné. Eh ben, sur la 113, là-bas, vers Béziers, des roumains, il y en a tous les 350.
Voilà, CFM au cœur de l'info.
Ben oui.
Merci, Patrick. T'as fait un reportage, t'as fait des interviews?
Ben, j'avais pas de micro.
Je vous trouve très beau. Un petit peu de musique?
D'aimer, invité par le duo Synapson, c'était Dion Mayamay dans Qu'est-ce qu'on déguste.
Le barrage de la forêt de Sivens, en ce moment, c'est un peu un endroit chaud. Alors, c'est quoi, c'est où, c'est pourquoi, etc. C'est donc entre l'Isle-sur-Tarn et Gaillac, dans le département du Tarn. C'est une forêt, la forêt de Sivens, qui appartient au conseil général du Tarn. Tarn depuis 1973. Et donc, il y a un projet de construction d'un barrage qui va contenir 1,5 million de mètres cubes d'eau sur le Tescou. Et oui, le Tescou qui se, donc, qui prend sa source à Castelnau-Montmiral.
C'est là où on jette l'arbitre, hein, généralement,
au Tescou,
dans la cuvette de sa
pièce. Et qui se jette dans le Tarn à Montauban, le long du Jardin des Plantes. Les mesures du barrage prévues, c'est 2 km de long, 250 mètres de large, 42 hectares de surface. Et alors, le problème, le hic, c'est que ce barrage doit se faire sur des espaces boisés classés, autrement dit des EBC. Et ces EBC, ces espaces boisés classés, ou les, aussi les zones humides. Pour moi, les zones humides, c'était les dessous de bras. Tu vois, j'ai découvert quelque chose. C'est 60% de la future retenue du barrage qui sont boisés. Donc, cette retenue, elle va servir à quoi, en fait? On va faire un barrage pour quoi? Eh ben, elle doit servir à soutenir le débit d'étiage, c'est-à-dire le niveau où le cours d'eau, le Tescou, est à son niveau le plus bas. Et ça doit servir aussi à l'irrigation. L'irrigation, notamment du maïs, qui est gros consommateur d'eau. Et donc, bien sûr, des maïs, peut-être OGM ou monsantotisés. Alors, le lieu, semblerait-il, est mal choisi.
On n'a pas le droit, pour le moment, de faire de l'OGM.
Je suis partisan, oui, effectivement.
On n'a pas le droit.
Non, j'ai pas le droit. Donc, c'est du maïs, hein. Mais en fait, c'est pas du maïs du Mexique, c'est pas du truc multicolore, c'est pas du truc, bon. Le lieu, semblerait-il, est mal choisi selon des études complémentaires. Il y a peu de relief, surtout il n'y a pas assez d'argile dans le sous-sol. Alors faire un barrage à un endroit où l'eau, elle part par la bonde, par le fond, c'est comme remplir une baignoire, la bonde ouverte, donc ça sert pas à grand-chose. Donc il faudra amener en plus de l'argile. On va aller en chercher de l'argile et puis on en met là. C'est un peu la lessive qui lave plus blanc. Il faut d'abord laver la lessive avant, laver l'eau avant de laver le linge. Donc il faut amener de l'argile. C'est aussi une zone humide à restituer. C'est-à-dire que, la loi impose de là où on va couper, il va falloir replanter et puis retransplanter les bestioles à côté. Et il faut mettre en place une passe à poissons, etc. Bon, bref. Coût des travaux, tout ça, c'est, aujourd'hui, on en est à 8,5 millions d'euros. Comment s'est distribué ces financements? Le conseil général du Tarn, en paye 10%, le conseil général de Tarn-et-Garonne en paye 10%, l'agence de l'eau Adour-Garonne 50% et l'Europe 30%. Et donc là, ça commence à chauffer parce qu'il y a les zadistes, c'est-à-dire les partisans de la zone à défendre, qui est un terme devenu générique depuis Notre-Dame-des-Landes, qui sont installés sur le spot et qui empêchent les bûcherons de couper. Et voilà. Alors maintenant, on va écouter un petit peu les uns et les autres.
Eh ben oui, et notamment Benoît Biteau, qui est un des administrateur de l'agence de l'eau à Adour-Garonne. Il est président de la commission territoriale Charente. Alors, tu disais aux antennes en rigolant, en regardant sa carte de visite, qu'il était
un petit peu cumulard. Alors, président de l'Office des Marais, quand même, ça, c'est
vice-président de la région Poitou-Charentes, président de la commission ruralité, agriculture, pêche et culture marine, élu référent Marraine-Oléron, président du Forum des Marais Atlantiques, membre du Conseil maritime de façade Sud-Atlantique, président de la commission mixte lien terre-mer, administrateur, je viens de le dire, de l'agence L'eau sur Adour, Garonne, président de la commission territoriale Charente, membre de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, je prends ma respiration, administrateur du Conservatoire régional des espaces naturels et du Conservatoire du littoral, président du conseil d'administration du lycée de la mer.
Mais il est aussi
ingénieur des techniques agricoles généticien.
Et il est aussi
conservateur du patrimoine.
Mais également
paysan bio.
Et oui.
Et lauréat 2009 du trophée national de l'agriculture durable. C'est dommage, on aurait aimé vous interviewer, mais juste citer votre carte de visite, on y arrive.
Ça y est, 3 minutes sont finies, merci, au revoir.
Benoît Biteau, bonjour.
Oui, bonjour.
Pardon d'être le prendre comme ça, mais en même temps, le vendredi soir, dans Qu'est-ce qu'on déguste, on a toujours un petit peu le sourire et on essaye de le garder, même si parfois l'actualité tend à devenir un petit peu compliquée, ce qui est le cas du côté de Sivens, hein, aujourd'hui.
Oui, on peut traiter de choses tout à fait sérieuses sans forcément se prendre complètement au sérieux.
Alors, qu'est-ce qui fait que vous, Benoît Biteau, vous soyez plutôt contre ce projet du barrage de Sivens, qui est cher à Monsieur Carcenac, le président du Conseil général du Tarn.
Et à Monsieur Baillet, président du Conseil général du Tarn-et-Garonne, puisqu'il finance aussi 10% du coût des travaux.
Et à Jean-Paul Rivière, qui est le président de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne également.
Il y a plein de raisons, mais c'est parce que au départ on se pose pas les bonnes questions et que on n'est pas dans une logique d'approche globale. C'est-à-dire que quand on se pose les questions de savoir à qui va profiter cet équipement financé, comme vous l'avez souligné très justement, par énormément d'argent public, qui va être fléché, encore une fois, vers un public professionnel qui sont les agriculteurs et pas n'importe lesquels, les maïsiculteurs, qui sont déjà les grands bénéficiaires des aides publiques de la PAC. On se dit que on se demande où ça va s'arrêter. Ça n'est que des fuites en avant. C'est-à-dire que si on regarde les motifs qui justifient que l'agence de l'eau, les conseils généraux engagent de l'argent public sur le forage, c'est au motif défendu par les chambres d'agriculture, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, le syndicat majoritaire FNSEA et les producteurs de maïs, au motif d'une rentabilité du maïs qui fait que sur fond de changement climatique, ils vont avoir besoin de toujours plus d'eau pour continuer de produire ce maïs. On se rend compte que cette production est tellement rentable qu'ils n'arrivent même pas à financer les équipements de production eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est pas eux les financeurs du barrage. Quand on regarde d'encore plus près comment on constitue la rentabilité de ce maïs, eh bien on se rend compte que la rentabilité de cette culture, c'est tout simplement les aides publiques. C'est-à-dire que quand on est producteur de maïs, on touche beaucoup plus d'argent public que quand on est éleveur, a fortiori en bio, avec des herbivores qui pourraient manger de l'herbe. Et c'est là où on s'installe dans un cercle vicieux, où plutôt que de faire manger de l'herbe à des herbivores, on dévaste des zones humides qui justement sont productrices d'herbes pour y produire du maïs lourdement soutenu par de l'argent public. Et comme la pluviométrie est de plus en plus rare et qu'on assiste à des étiages sévères, et c'est la raison pour laquelle on cherche des solutions pour éviter ces étiages sévères, plutôt que de remettre en cause la politique du maïs, on continue d'engager de l'argent public pour constituer des équipements qui ne vont que différer les problèmes. Et tout ça pour sortir les herbivores de zones herbagées où ces herbivores pourront manger de l'herbe, pour les enfermer dans des bâtiments où on va les faire consommer du maïs et du soja, puisque c'est le binôme rêvé, paraît-il, pour produire du lait et de la viande. Et pour se rendre compte qu'au final, la viande et le lait produits avec ce binôme maïs-soja sont d'une qualité souvent douteuse. Alors que quand on a du lait ou de la viande produite avec des herbivores qui mangent de l'herbe, on a à nouveau des productions de qualité. Donc vous voyez bien que d'un côté, c'est très manichéen, d'un côté on a un cercle vicieux où on nous demande de résoudre une équation impossible, pratiquement impossible à résoudre, c'est-à-dire que sur fond de changement climatique, on fait le constat d'un régime pluviométrique de plus en plus faible, des chaleurs de plus en plus fortes, donc des agriculteurs qui réclament toujours plus d'eau dans un régime hydrographique plutôt déficitaire, à cause de la culture du maïs, sans remettre en cause le fond du problème, c'est-à-dire s'attaquer à la cause de toutes ces difficultés, qui est tout simplement la production du maïs. Et quand on revient sur des logiques herbagères, et bien on se rend compte qu'on réallume véritablement des cercles vertueux où on a des produits de qualité, où on continue d'entretenir des zones remarquables à forts enjeux patrimoniaux comme les zones humides, où on recrée du sens par rapport au lien au terroir, donc à des produits d'origine d'appellation contrôlée. Enfin, voilà, c'est magnifique. Hein. D'un côté, il y a un cercle vicieux qui consiste à faire ce barrage, et de l'autre côté, il y a un cercle vertueux où on revient sur ce que mon grand-père appelait du bon sens paysan.
Alors, à votre avis, ce barrage, il va se faire, il va pas se faire?
Je peux pas donner de pronostic parce que il y a une telle volonté politique, vous l'avez souligné dans votre introduction, pour qu'il se fasse dans une logique où on est dans la cogestion avec le syndicat majoritaire FNSEA qui apporte de mauvais arguments, moi j'insiste, hein, et ceux qui me connaissent à l'agence de l'eau, je suis administrateur, vous l'avez dit, à l'agence de l'eau, je ferraille régulièrement sur ce sujet-là, parce que les arguments qui justifient le développement de telles logiques et la mise en place de tels équipements sont pas les bonnes, on est dans des approches cloisonnées et qui ne sont pas des approches globales, et donc avec une telle volonté politique basée sur des approches tellement partielles, c'est pas exclu que ce barrage se fasse.
Alors, est-ce que vous avez l'oreille quand même de la ministre de l'écologie, puisque je vais le rappeler, vous êtes vice-président de la région Poitou-Charentes, dont Madame Royal est la présidente.
Depuis qu'elle est ministre.
Mais enfin, est-ce que vous avez l'oreille de Madame la ministre?
Oui, c'est d'ailleurs parce qu'elle s'est faite épingler, je ne sais plus dans quelle conférence de presse où elle était interrogée par un journaliste où visiblement elle n'avait pas elle n'avait pas tout à fait encore tous les éléments concernant l'équipement, enfin cet équipement-là. Elle a cru que c'était un barrage hydroélectrique, donc elle s'est fait un peu remonter les bretelles par FNE par exemple. Et donc, au bénéfice d'un passage en région Poitou-Charentes, je me suis autorisé à lui donner des billes sur ce dossier-là, de manière à ce qu'elle comprenne que c'est un barrage à vocation maïsicole, hein, et comptez pas sur moi pour un propos anti-irrigation. Moi, mon problème, c'est le maïs, c'est pas l'irrigation.
Est-ce qu'il est possible de cultiver du maïs de manière propre, c'est-à-dire sans y mettre des tonnes de flotte?
Comme vous l'avez dit, je suis paysan bio, et une des premières choses que j'ai fait, puisque la ferme que j'ai reprise, moi, était une ferme qui était allée très loin dans le développement de son modèle agricole intensif, qui s'appuyait sur une monoculture de maïs depuis 35 ans. Ça faisait 35 ans qu'on produisait du maïs monoculture sur la ferme quand je l'ai reprise, sur un bassin versant qui est le bassin versant de la Seudre. La Seudre, ça vous dit rien du tout?
La Seudre, si, c'est en face de Marraine-en-Léron.
C'est la Seudre. Effectivement, à l'estuaire, on produit de l'huître de Marraine-en-Léron.
La Chatsa, la Seudre, c'est la Chatsa, on mange des superbes huîtres, là.
Ouais. C'est ça. Eh bien, moi, quand j'arrive sur ce territoire, sur le bassin versant de la Seudre, je renonce à l'irrigation. Mais je ne renonce pas au maïs. Et, vous l'avez dit, je suis généticien aussi, ça c'est ma formation, et aujourd'hui, on peut travailler sur des cultures de maïs avec de ce qu'on appelle des variétés population, qui sont des variétés anciennes, qui n'ont rien à voir avec les semences issues de Monsanto.
Voilà, monsantotisées, oui.
Voilà, c'est ça, qui sont des hybrides qui font que le maïsiculteur qui veut produire du maïs dans ces logiques-là doit passer systématiquement par la case semences chaque année pour cultiver du maïs. Alors que chez moi, un grain de maïs, vous avez parlé des maïs mexicain, aztèque ou maya, chez moi, un grain de maïs, il se mange ou il se sème. C'est le même. Et l'avantage de ce maïs-là, c'est que il a bénéficié d'une sélection que moi j'appelle convergente des hommes par rapport à des objectifs qu'on attend de ce maïs-là et du milieu, parce que depuis des décennies, il est élevé sur ces zones-là et donc il s'est adapté à la zone de production. Et une des adaptations de ces variétés population, au-delà du fait qu'on est parfaitement autonome, nous les paysans, quand on utilise ces variétés population, c'est qu'on n'a pas recours à l'irrigation, c'est-à-dire qu'on a affaire à des variétés qui se développent parfaitement sans avoir recours à l'irrigation, avec des niveaux de productivité qui sont redoutables.
En plus. Tout ça pour produire de la viande ou du lait que l'on jette à la sortie. Enfin, pour la partie.
Alors, il y a deux experts qui ont été envoyés ces jours-ci par, justement, Ségolène Royal, sur le...
Voilà. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure.
Sur site. Est-ce que vous savez où ça en est aujourd'hui, là, à l'heure actuelle?
Ça en est qu'ils n'ont qu'une partie, ils n'ont que des bribes d'informations dans le sens où, Ils n'ont rencontré que les porteurs de projets, c'est-à-dire la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, le conseil général du Tarn, et que, en l'état, les zadistes de la zone du Testé refusent pour le moment de les rencontrer tant que l'arrêt des travaux n'est pas ordonné par la ministre de l'écologie. C'est-à-dire que...
Expliquez-nous pourquoi il est annoncé que ces travaux sont hors la loi.
Ils sont hors la loi parce qu'il y a plusieurs recours, et c'est le cas. Moi, j'ai vraiment alerté Ségolène là-dessus, parce que ils sont hors la loi tout simplement parce qu'il y a plusieurs recours en justice qui sont actuellement en instruction. Et un des recours, donc il y en a au moins trois, mais un des recours est un recours déposé en référé, qui fait que quand on dépose en référé, c'est un recours suspensif. C'est-à-dire que tant que le tribunal en référé n'a pas donné son verdict par rapport à ce recours, aucun travaux ne peut être engagé sur la zone, puisque c'est un recours en référé. Et c'est là où il est surprenant, et c'est un peu le sens de mon communiqué de presse, il est surprenant de voir un conseil général qui fait quelque part un passage en force en mandatant le début des travaux, alors qu'il y a un recours en référé qui est suspensif et qui donc empêche tout début des travaux, et que les forces de l'ordre s'attaquent aux zadistes et aux gens qui réclament le respect de la loi et de la justice, plutôt que de mettre dehors des bûcherons qui, eux, sont en parfaite illégalité. Donc là, il y a moi qui suis un modeste élu de cette République, ça me pose un petit problème que les forces de l'ordre préfèrent taper sur des gens qui ne font que réclamer le respect de la loi et de la justice, plutôt que de s'attaquer à ceux qui sont qui ne sont pas dans le respect de la loi, justement, puisqu'il y a un recours en référé qui est suspensif.
Alors, qui leur donne l'ordre de taper sur les gens qui veulent la légalité?
Ça c'est la préfecture, hein, c'est-à-dire que...
C'est l'État. Mais l'État, c'est nous, disait... L'État, c'est moi, disait Louis XIV.
L'État permet au Conseil Général de faire ses travaux, parce que les travaux, c'est le Conseil Général qui est en train de les lancer, en fait. Hein.
Et qui les paye.
C'est-à-dire que l'État a jugé qu'il ne pouvait pas dédire un ordre du Conseil Général du Tarn, mais je suis désolé, le préfet ou la préfète, je ne sais pas ce que vous avez dans le Tarn, mais on n'aurait jamais dû ordonner aux services d'ordre de disperser la manifestation. La préfecture aurait dû demander la dispersion des bûcherons sur le site par rapport à ce recours en référé qui, je le répète, est suspensif.
On a l'impression que ça joue la montre, hein, c'est-à-dire que vite il faut couper tous ces arbres et que de toute manière au bout d'un moment, ben, comme il n'y aura plus rien, la zone humide n'existera plus et donc on pourra le construire, ce barrage, ça n'intéresse pas plus personne.
C'est cette dimension d'irréversibilité qu'il faut entendre. C'est-à-dire que pour être conservateur du patrimoine, vous l'avez dit aussi, j'ai travaillé sur des préservations d'espaces remarquables et patrimoniaux, mais j'ai travaillé aussi sur des espaces à restaurer. Et à un moment donné, on est obligé de convoquer une dimension d'irréversibilité. C'est-à-dire que il y a des espaces, quand on les impacte trop lourdement, quand bien même la nature reprend vite ses droits, il y a quand même des dimensions d'irréversibilité.
Et ils ne peuvent plus revenir, c'est plus possible.
Ça ne peut plus revenir en arrière. Et donc, si les zadistes, aujourd'hui, ne veulent pas renoncer à leur combat, c'est parce qu'ils ont peur de cette irréversibilité. Et comme je vous le dis, moi qui suis spécialiste de ces enjeux patrimoniaux, puisque j'ai été conservateur pendant presque 10 ans dans la fonction publique territoriale, je peux vous dire que c'est un combat légitime, c'est-à-dire qu'effectivement, on arrive parfois à des situations où l'irréversibilité est constatée. Et ça, c'est dramatique. Et un jour, nos enfants nous accuseront.
Titre d'un très beau film, d'ailleurs, Nos enfants nous accuseront.
Absolument. Jean-Paul Jou est un très bon ami à moi. Et...
Vous êtes apparu dans son film Saverne.
Severn et tous cobayes, les deux derniers, ouais. Là, donc les deux derniers qu'il a fait, Severn et tous cobayes, mais je vais apparaître aussi dans le troisième qui s'appelle Libre, donc qui va faire partie de la quadrilogie, puisqu'il y a eu Nos enfants nous accuseront, Severn, tous cobayes, et le prochain s'appelle Libre. Et je parle justement dans Libre, et c'est pour ça que je vous parle de ça, je parle du rôle déterminant que jouent les zones humides sur la biodiversité, sur le changement climatique. J'explique ça à un groupe d'enfants dans ce film qui va sortir a priori à la fin de l'année 2014.
Benoît Biteau, si demain tous les recours devant la loi disaient que il faut le faire ce barrage, vous changeriez d'avis ou pas?
Non, j'ai pas, ceux qui me connaissent savent que j'ai pas pour habitude de changer d'avis, sauf à me faire la démonstration qu'effectivement il est pertinent de dévaster cette zone humide pour y faire du maïs, mais j'ai bien peur, parce que je suis un peu aguerri sur ces sujets-là, j'ai bien peur que malheureusement on n'arrive pas à faire de démonstration qui aille dans ce sens-là et qui fasse la démonstration qu'il vaille mieux produire du maïs et donc couvrir de plusieurs dizaines d'hectares d'eau pour irriguer ce maïs plutôt que de préserver une zone humide. Malheureusement, pour avoir été confronté à plusieurs reprises à ce genre de projet-là, j'ai bien peur qu'on n'arrive pas à cette conclusion-là. Et donc, j'ai bien peur aussi de ne pas changer d'avis, même s'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'adore, je vais vous dire, hein, moi j'adore avoir tort, parce que quand j'ai tort, au moins j'ai l'impression de progresser. Et j'ai l'impression de me dire, j'ai fait fausse route, mais j'ai compris des choses, et donc ça me permet d'avancer. J'ai bien peur que là, malheureusement, j'ai pas le plaisir, on va dire ça comme ça, j'ai pas le plaisir d'avoir à changer d'avis parce que faire une confrontation d'une logique tournée vers le maïs, vers une logique patrimoniale de préservation de zones humides. Malheureusement, j'ai travaillé pendant presque 10 ans sur une zone humide importante en France qui s'appelle le Marais Poitevin, où on a retourné 33 000 hectares de prairies patrimoniales pour y développer la production de maïs, et c'est juste un désastre.
Merci Benoît Biteau d'avoir été avec nous. Je rappelle quand même donc que vous êtes secrétaire national Parti Radical de Gauche, que vous êtes vice-président de la région Poitou-Charentes également. Et puis alors, je renvoie les auditeurs au podcast de l'émission pour votre carte de visite qu'on a citée en début d'interview parce qu'elle est très très longue.
Mais je ne suis pas cumulard.
C'était une blague, mais si, quand même un peu, monsieur le président.
Non, non, mais je précise les choses, c'est que je n'ai qu'une fonction d'élu, je suis vice-président de la région, et à ce titre-là, je suis désigné dans plusieurs structures qui, vous l'avez compris, tournent autour d'une thématique qui m'est très chère, qui est le lien terre-mer au fil de l'eau, justement, et du coup, au fil des désignations que je porte au titre de la région. Effectivement, parce que j'ai un profil d'élu, mais aussi technicien, et que je suis dans le dur, parce que je suis aussi paysan, et que je mets en pratique mon propos au quotidien sur ma ferme, eh bien, on m'a demandé, et je l'ai accepté, parce que j'aime bien relever les défis, de prendre un certain nombre de présidences, mais qui sont liées à mon mandat de vice-président de région Poitou-Charentes. Donc, je n'ai qu'un mandat électif, je tiens à le dire.
Bravo. Merci Benoît Biteau d'avoir été avec
merci
nous dans Qu'est-ce qu'on déguste. À une prochaine fois. Au revoir.
À très bientôt. Merci.
Au revoir.
Zadistes, tout le monde.
Les zadistes. Les zadistes. Zone à défendre.
Zone à défendre. Voilà. Ça c'est un nouveau mot qui rentre dans le dictionnaire maintenant depuis Notre-Dame-des-Landes.
Des zadistes pour la bonne bouffe à défendre.
Moi c'est Mélanie qui m'a dit ce que ça voulait dire un zadiste.
Je te l'ai dit. Non,
parce qu'il y a les zadistes, Mélanie. Elle y va à Notre-Dame, pas à Notre-Dame-des-Landes.
À Sivens.
Dans la marée de vin. Ah non, à Sivens.
À Sivens.
Je sais pas trop où elle va d'ailleurs, Mélanie. Elle se balade un peu dans les bois.
Ta, 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 ta. Une très belle chanson de Georges Brassens, Mélanie d'ailleurs.
Et elle passe la tête.
Oui, Mélanie, elle est là. Mais on te fera écouter Mélanie par Georges Brassens.
Mélanie aussi.
Ah, qu'est-ce qu'on est juste aussi, oui. La suite.
CFM. CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovali.
Qu'est-ce qu'on déguste, la suite. Alors au programme, une bonne petite recette par Pascal Olivier, un morceau d'Ella Fitzgerald, non pas de la Fitzgerald,
Nina
de
Simone, Simone.
Avec Georges Bonfils, et puis une BD, c'est les Dalton ou quoi?
Ouais, c'est l'élève du Cobu, il a piqué un pull au Dalton quand même.
Ah oui, c'est ça, je voyais de loin, là, je voyais noir et jaune rayé.
C'est ça.
On va avoir pour le questionnaire gourmand Michel Fugain avec nous tout à l'heure, puisque Michel Fugain en fait est en promo. Il vient ici en Tarn-et-Garonne à Eurythmie le 27 septembre prochain avec son projet Le Pluribus. Du coup, on se l'écoute.
Changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. C'est la fête, la fête. C'est comme un bon coup de soleil avant la folie. Rien n'est plus pareil. C'est la fête, plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied. C'est la fête, le pain et le vin sont gratuits, et les fleurs aussi. C'est la fête, c'est comme un bon coup de soleil. Sur le coudron, merde que ma ville est belle, avec
Voilà les nouveaux arrangements de la
je
fête
comme un fou.
De Fugain par Pierre Bertrand, qui est à la direction de l'orchestre. L'orchestre, c'est le pluribus, en fait. Ils vont être 12 sur scène, 11 autour de Michel Fugain, le 27 septembre prochain. C'est à cette occasion, en fait, qu'on va passer un petit coup de fil dans quelques minutes à Michel Fugain dans Qu'est-ce qu'on déguste ? Mais en attendant, une bonne petite recette de chez le papy Olivier.
Une petite recette. Alors en ce moment, il y a plein de choses. On peut faire plein de trucs en ce moment. Il y a tous les légumes qui arrivent, les fruits. Il y a des tartes aux poires à faire qui sont extraordinaires. Il y a des poulets basquaises aussi.
Hier soir, j'ai mangé une poire au vin qui était succulente.
Ah ben oui, voilà, poire au vin avec un bon vin, une bonne poire, et ça fait un bon truc.
Ce que j'aime bien chez Pascal, c'est qu'il y a plein de bons trucs à faire, mais c'est pas ça que je vais vous faire.
Non, je vais vous faire moi autre chose. J'ai une petite recette que j'adore, des œufs avec des tomates en coulis. Donc on fait un coulis de tomates standard, donc on prend des bonnes tomates du marché, on les pèle comme on fait pour peler les tomates, on les passe pendant une minute dans une casserole d'eau bouillante, on les sort avec un écumoire, on souffle un peu dessus et la peau s'enlève, c'est mieux parce que les peaux de tomates c'est un petit peu lourd à digérer, donc on met dans une sauteuse de l'huile d'olive, un oignon, de l'ail, du persil, du thym, du laurier, on laisse compoter ça pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, on écrase à la fourchette, on réserve et on fait refroidir à part. On va faire nos œufs pochés. Comment on fait des œufs pochés? Alors l'œuf poché, c'est pas l'œuf cocotte, c'est vraiment un œuf poché, c'est un œuf dont le jaune est liquide et le blanc qui est solide tout autour. Et donc pour faire ça, on fait frissonner un litre d'eau avec un demi-verre à moutarde de vinaigre de vin ou de vinaigre d'alcool. Il faut du vinaigre, sinon si on met pas du vinaigre, ça ne marche pas.
Ça coagule pas assez vite.
Voilà, on casse les œufs un à un dans un bol et on va approcher le bol délicatement et on verse délicatement les œufs dans l'eau frissonnante. Surtout, il faut pas saler l'eau, hein. Parce que le sel liquéfie l'albumine du blanc et là, on va pas avoir du tout d'œufs pochés. On fait pocher donc ça 3 minutes, on les sort avec une écumoire.
Top. Le sel liquéfie l'albumine.
Oui,
c'est important ça, parce que d'habitude, on a toujours tendance à jeter une pincée de sel dans
l'eau. Mais pas dans le pochage des œufs à l'eau.
D'accord.
Mais pour des œufs au plat, on s'en fout.
D'accord.
Donc, surtout, on ne sale pas l'eau. On verse délicatement, on verse délicatement ces œufs.
Enfin, en même temps, dans les œufs au plat, il n'y a pas d'eau.
C'est ça. Voilà.
Si, je vous donnerai plus tard, une recette d'œufs au plat de Michel Guérard qui sont faits à l'eau.
Ah oui.
Dans la grande cuisine minceur, j'ai trouvé ça. Donc, on égoutte, on sort nos œufs pochés, on les fait unitairement ou deux par deux, mais il vaut mieux les faire unitairement. Ça prend 3 minutes, on les sort, on les met sur un linge, on les égoutte. Avec un couteau, on peut rectifier éventuellement on le taille un bel œuf, bel ovale ou un beau rond. Et puis ensuite, on a mis dans son assiette, dans ses plats de service ou dans ses assiettes, on a mis deux ou trois cuillerées de tomates en coulis qu'on a écrasées comme ça, qui est froid, et on va avoir l'œuf poché par-dessus, tiède. On peut décorer avec un brin de persil ou de cerfeuil ou choses comme ça. Un petit peu de paprika tout autour pour relever un petit peu le truc. Et là, quand on va servir ça, donc on a notre œuf qui est tiède, notre coulis de tomate qui est froid, le jaune va couler bien délicatement là-dessus et on se régale avec des petites mouillettes et tout ça. C'est vraiment sympa à faire. C'est pas cher, c'est vite fait, c'est très très bon. Leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independent.
La musique qui swing, la diva Nina Simone, on a vu dans son chorus, si vous avez bien écouté, elle a utilisé la fugue et les figures de la musique classique. Elle est très influencée par le classique, c'est ce qu'elle voulait faire, être la première pianiste noire de concertiste. Mais bon,
la vie en a décidé autrement.
La vie en a décidé.
Oui, mais elle
autrement.
Swing quand même.
Elle swing super. Mmh. Bah elle oui, swing quand bien. Même quand elle fait du classique, elle swing bien. Son dernier concert, elle l'a fait au Festival de Jazz de Marciac et elle a fait un concert entier parce que souvent elle faisait 2-3 morceaux, puis elle repartait parce qu'elle avait quand même un caractère de diva. Et puis elle s'est éteinte en 2003 à, pas Bourg-le-Mimosa, mais en Provence, à Carry-le-Rouet. Voilà.
Michel Fugain, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien. On est content avec l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste de vous accueillir pour savoir un petit peu ce qu'il y a dans votre frigo. Oui, Qu'est-ce qu'on déguste, c'est une équipe qui se réunit tous les vendredis pour casser la graine et boire l'apéro en direct à la radio, vous voyez. Et donc, on voudrait bien savoir, vous, quel rapport vous avez justement à la nourriture, vu que, étant donné votre grand âge et votre ligne si svelte, on se demande bien comment vous faites, voilà.
Alors, écoutez, la sveltesse, je vous le dis tout de suite, il faut que je fasse un peu gaffe, parce que sinon, t'as bien vu, il y a le pneu qui vient assez vite, d'autant qu'on est dans un pays, je vis en Corse, hein. Donc il y a le rosé, il y a les bouffes entre potes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo? Vivant en Corse, il y a forcément de la charcuterie corse, ça c'est ce qui veut dire que les apéros, c'est avec de la charcuterie corse. Je vis avec une femme absolument extraordinaire, qui s'appelle Samba, qui est ma blonde, et qui se charge de tout ce qui est cuisine, c'est-à-dire elle m'interdit pratiquement d'y mettre les mains. Elle est roumaine, donc c'est une espèce, c'est culturel. Un homme, c'est un homme, une femme, ça fait des plus de femmes. Des fois, je proteste, mais ça marche pas. C'est ancré profondément. Donc, elle sait ce que j'aime, elle sait ce qu'elle aime aussi. Donc, on a beaucoup de potes à la maison, des potes, ça passe sans arrêt. Vous savez, en Corse, on vit tous ensemble. Hein.
Et alors, j'allais vous dire, la dernière fois que vous avez cuisiné pour plaire, mais alors, vous y arrivez quand même de temps en temps à mettre les mains au fourneau?
Quand je veux plaire, avec l'assentiment de ma blonde, je suis préposé à l'omelette. Et une omelette, pour moi, c'est une espèce de voyage incroyable, parce que je parfume l'omelette, je mets juste ce qu'il faut de bière, juste ce qu'il faut de lait, il faut qu'elle soit savoureuse, il faut qu'elle soit mousseuse. Donc, même ma Fanda, tout ça, excellent.
Et voilà. Donc avec plutôt de la truffe, plutôt des champignons?
Il n'y a pas de truffe en Corse, il n'y a pas de truffe. Il y en a chez vous, là, dans Montauban, vous avez de la truffe. Hein.
Ah oui, nous on est à l'Albinque juste à côté. Alors. Oui, nous,
ah voilà, mais c'est ça. On peut pas tout avoir, merde. Je peux pas avoir la mer Méditerranée et la truffe.
Quels sont les vins que vous posez sur vos tables?
Ici, on boit, en règle générale, on boit du vin corse, d'accord? On est dans une région de vin ici, dans la région de Calvi, une appellation Calvi. Il y a des très bons vins, des très très bons vins, des très bons vins du sud. Mais par habitude, je suis très Côte du Rhône, voilà. Je suis Côte du Rhône, alors je suis Château Neuf du Pape, Gigondas, des bons vins de Côte du Rhône. Et j'adore ça.
Bon, et pour avoir la ligne svelte, c'est le sport, quoi, c'est tout, c'est ça?
La ligne svelte, c'est quand je suis au travail, je sens bien que c'est moins svelte que ça voudrait. Et parce que je suis souvent assis, le nez sur mon ordi, c'est pas bon pour le ventre, pour la petite graisse qui vient devant. Ouais.
Bon, en tout cas, merci Michel Fugain d'avoir été avec nous dans Qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui. La semaine prochaine, vous serez notre invité dans PCV toute la semaine à l'occasion de votre venue le 27 septembre prochain avec toute l'équipe de Pluribus.
Avec toute l'équipe de Pluribus, avec tous mes potes.
Ouais. Merci infiniment et je vous laisse aller travailler maintenant. À bientôt.
Merci, c'est gentil.
Au revoir.
À tout bientôt.
C'est bon, que c'est beau, que c'est chaud, que c'est bon, tout ça.
Voilà, Michel Fugain, le 27 septembre prochain, avec le Pluribus à Eurythmie, avec les nouveaux arrangements. Il y a 2 heures de spectacle, vachement autour du Big Bazar, mais aussi autour de quelques nouveaux morceaux de ce gala qui, quand même, cela coule douce encore.
Encore du côté de Calvi, en Corse du Sud. Hein.
71 ballets, 50 ans de carrière, y seras-tu?
Alors, peut-être, si on m'a pas tué avant.
Oui, c'est ça.
Bah, j'ai noté qu'il mettait de la bière dans l'omelette, ouais. Jamais dans les crêpes, oui, mais alors
ouais,
dans
moi
l'omelette,
non plus, j'avais
de la bière.
Mais justement, dans
pour
les crêpes.
Que ça soit moussu.
On met du ferment. On met de la bière pour la levure, en fait.
Oui, pour les ferments.
Donc ça doit la faire gonfler, mousser, tu vois.
C'est bon, je vais essayer.
Hein?
Bon, ouais, tester maintenant.
Je vais essayer. Tester
un petit peu.
Ouais, voilà. Est-ce qu'il faut de la blonde, de la brune, de la ambrée?
Ah ben,
de la blanche. Pas de la trapiste,
ce week-end, on va se faire des omelettes à la Fugain, tu vois, avec de la bière.
On va tester?
Ah bah oui, évidemment.
Quand tu vas venir, on le portera.
Il sera notre invité dans PCV la semaine prochaine, l'ami Michel Fugain. Et même si ça agace Aurélien, moi j'ai appris à chanter sur Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien, et etc, etc. Je les connais tous par cœur. Tous. Eh oui.
Je me disais bien que t'avais un grain.
Ah,
c'est ta jeunesse.
C'est mon côté, papa.
En même temps, sur certains trucs, il y a certains moments, t'aurais pas dû faire comme l'oiseau.
Oui,
des derniers accidents.
Tac.
Allez, prends ça. Bon, et si tu nous parlais plutôt de Du
Cobu, un petit peu de BD, un petit peu de Du Cobu. Alors, ok, on est parti. On va commencer avec ce tome 20 de l'élève du Cobu. Alors oui, c'est déjà le 20e album des facéties du cancre au pull de Dalton, comme l'a fait remarquer tout à l'heure Rémi. Alors à la fois aussi le plus ingénieux dans l'art de la tricherie. À l'occasion de cet anniversaire, on retrouve entre autres une interview exclusive mettant en valeur le pupitre en bois sur lequel travaille du Cobu et sa studieuse voisine Léonie Gratin, mais aussi notre tricheur compulsif part en campagne pour être représentant des élèves de sa classe. Et quel délégué, voir encore un nouvel élève